Bonsoir. Je remercie d'abord encore une fois M. Carlo Ossola qui préside cette fois de façon silencieuse et toute l'assistance qui me fait l'honneur d'être de sa présence pour cette deuxième conférence sur l'imaginaire et la spiritualité de Fénelon, qui portera encore une fois sur le Télémaque. Et cette fois, je propose ce titre, « Fable classique et fable mystique ». Bien sûr, dans ce titre, les deux syntagmes qui le composent ne sont pas tout à fait symétriques. « Fable classique », c'est bien le mythe grec surtout. « Fable mystique », c'est le titre célèbre d'un livre, désormais de deux livres, de Michel de Certeau. Et donc, fable a alors, à partir de son étymologie, le sens de mise en récit, de mise en parole, de discours, discours de l'indicible. Ce titre est là pour nous rappeler que le mystique au XVIIe siècle fut aussi, sinon surtout, question de langage. Et Fénelon est bien placé pour le savoir, lui qui a été, qui dans l'explication des Maximes des Saints, le livre condamné à Rome, a fait un suprême effort pour traduire le langage, les paradoxes des mystiques dans un langage correct, dans la bonne langue de la théologie et de la raison spirituelle universelle. Donc, je voudrais m'occuper aujourd'hui des rapports des deux fables, tout en tenant compte qu'il n'y a pas une véritable symétrie entre ces deux thèmes. Et bien sûr, c'est parce que l'une des principales énigmes du Télémaque, c'est le choix de confier à la fable païenne l'éducation d'un prince chrétien et jusqu'à sa formation spirituelle, qui ne peut que déboucher de façon discrète sur une initiation mystique. Dans une première partie de mon propos, je voudrais poser à nouveau les deux questions préalables que se posent tous les lecteurs du poème de Fénelon. Elles sont complémentaires et symétriques. Qu'en est-il de l'écriture sainte dans le Télémaque ? À quel niveau du texte se manifeste la mémoire biblique avec ses mythes, ses histoires, ses symboles, ses maximes ? Et d'autre part, Fénelon, qui dans la lettre à l'Académie a défini monstrueux le panthéon païen, lui donne un grand relief dans son ouvrage pédagogique. Qui sont donc pour Fénelon les dieux de la fable? Dans la deuxième partie de mon exposé, je m'attacherai à un cas limite et d'autant plus exemplaire. L'utilisation d'un personnage du mythe ancien, et quel personnage, Vénus, dans un jeu herméneutique qui me semble complexe et inattendu. Certes, la séductrice, la tentatrice est là pour offrir l'occasion de leçons de morale. Mais paradoxalement, cette même morale pourrait contenir en anamorphose un message plus profond, une mystique qu'il s'agit de mettre au jour. Ce serait donc une preuve extrême par l'absurde du rapport que je tiens à souligner. Donc, première question, l'absence de la Bible dans le Télémaque. On s'est demandé mille fois pourquoi les voyages de Télémaque ne l'ont-ils pas conduit à entrevoir au-delà de Tyr, par exemple, Jérusalem, qui n'était pas si éloignée. Pourquoi les deux antiquités restent si rigoureusement distinctes? Ou plutôt, pourquoi le voile de la fable ne se déchire jamais sur la scène profonde qu'il cache? Parmi tant de réponses possibles, qui tiennent compte d'une bienséance incontournable au XVIIe siècle, on ne peut pas mêler le sacré et le profane. Je tenterai d'approcher cette question par une voie un peu plus longue, plus articulée. Comme toujours, le profond, c'est la forme. La Bible et son univers s'inscrivent dans la mémoire du texte, déjà à partir de ce qui lui donne le plus radicalement sa forme, c'est-à-dire à partir de son genre. Certes, le Télémaque cherche un peu à tous les niveaux la convergence entre les motifs poétiques et moraux des deux antiquités. L'exemple typique, mille fois cité, est la métaphore de la fleur coupée, de la jeunesse tranchée, topos fénelonien, virgilien, biblique. Je voudrais toutefois formuler ici l'hypothèse selon laquelle la présence de l'Écriture sainte dans le Télémaque, vaste poème sans vers, se fait sentir au cœur même de la poétique de ce texte et dans le nœud de l'articulation entre genres. Fénelon lui-même nous achemine dans cette direction par les remarques de son projet de poétique dans la lettre à l'Académie. Toute l'écriture est pleine de poésie dans les endroits même où l'on ne trouve aucune trace de versification. Si le Télémaque est à sa manière un poème en prose, cela se produit aussi grâce à l'influence du modèle de l'écriture tel qu'il était relu et interprété par Fénelon et ses contemporains. Car la haute reconnaissance décernée par le Petit Concile des Amis de Fénelon et de Bossuet à la poésie biblique allait de pair avec la constatation d'une lacune du texte sacré, l'impossibilité supposée de reconstruire la prosodie originelle des textes poétiques de la Bible. C'est une question encore actuelle, réouverte récemment par Henri Méchenic. La plus sublime poésie biblique, y compris celle des psaumes, des prophètes et du cantique des cantiques, qui dans l'original hébreu ne comportait pas de distinction entre vers et prose, portait cependant en elle-même inaccessible une dimension accentuelle et rythmique perdue. Celle-ci était compensée par la splendeur des figures. Figure, c'est la notion clé qui a été souvent mise en cause, et déjà par saint Évremond, pour rendre compte du caractère poétique du Télémaque. C'est un poème en prose d'un style trop figuré pour la prose, admirable pour la poésie. C'est une lettre inédite qui a été publiée par Jacques Lebrun. La Bible, conçue sur la base des traditions exégétiques comme un vaste système figuratif, éduque à une culture des images. L'école de la Bible pour les poètes du XVIIe siècle a été l'apprentissage de la relation avec un dieu poète, caché dans le clair-obscur des signes et avec un monde où tout est figure et reflet, énigme et transparence. En particulier Fénelon, pourtant si attaché à la naturalité et à l'historicité des préceptes bibliques, en tant que maître spirituel, ne peut pas ne pas privilégier une exégèse spirituelle de l'Écriture, c'est-à-dire une exégèse qui tout entière parle de ce qui se passe dans l'homme intérieur. Je cite ici ce qu'un auteur écrit de Jean de la Croix. Le mystique opère toujours une ouverture vers la plénitude et l'infinité du texte. Le mystique ouvre, réinaugure, fait éclater le texte sacré. Ce texte sacré en éclat, ce sens ouvert, est la Bible secrète, souterraine, du Télémaque et est la fleur parfois dans des épisodes dont on cite souvent, par exemple, l'épisode du livre 14, la catabase de Télémaque, la descente aux enfers, qui culmine avec la représentation de la béatitude des justes. Cette béatitude qui est lumière, qui n'est que lumière. La lumière nourrit, rêvait les justes. Elle leur provoque un perpétuel saisissement de cœur. Cette lumière johannique qui nous ramène aux références bibliques les plus centrales chez Fénelon, en particulier le prologue de l'Évangile de Jean. Ou encore un autre épisode souvent cité, c'est le mythe, le mythe moderne que Fénelon invente avec l'histoire de Cléomène au XVIIIe livre, ce personnage fictif qui cache l'identité d'Ulysse. Dans une histoire un peu extraordinaire, par son tissu de référence au texte biblique et à la tradition spirituelle. Dans ce 18e livre, on parle secrètement du discernement des esprits, de l'épreuve de la désolation, le calme du vent qui empêche la navigation et le dégoût du pur amour qui rend Télémaque rebelle pour une fois aux leçons de Mentor. Encore plus, l'épreuve mystique de l'absence et de l'abandon de la part du Père. Ulysse caché, sous un faux nom, fuit son fils, avec des renvois à des versets de l'Évangile de Jean sur la connaissance, sur la possibilité de connaître le Père, jusqu'à ce que la glorification de la parole, Mentor, Minerve, et le retour du vent, ici je voudrais mettre un grand V, le vent, l'esprit, permettent à Télémaque de reprendre son voyage vers la maison du Père, justement, et de reconnaître finalement son Père au dernier mot du livre. Donc c'est ça la Bible secrète du Télémaque. Ajoutons que l'exégèse biblique a fourni, comme il a été dit plusieurs fois, le modèle de l'acte de lecture dans la culture occidentale. Le système d'écho interne, le déchiffrement d'un passage à travers d'autres passages, peut être survenu à plusieurs siècles de distance. La Bible est une bibliothèque, en fait. La cohérence globale d'une herméneutique où tout se tient, même au prix d'une perpétuelle réécriture du sens. Est-ce que Fénelon, en face du mythe classique des splendeurs d'Homère et de Virgile, a pu se souvenir de ce modèle et accéder ainsi à une synthèse nouvelle et originale entre les méthodes de l'exégèse biblique et les habitudes de lecture de classiques? Un livre interprète l'autre livre. Un théologien interprète l'autre théologien. La mémoire biblique interprète la mémoire classique. La théologie des païens dont les théologiens furent les poètes, dit Fénelon dans la démonstration de l'existence de Dieu, et vice-versa. Le système figural de l'exégèse biblique n'ôte rien au naturel, à la vérité, à la consistance historique du texte interprété. Ce système est le pédagogue de l'acte de la relecture et de la réécriture vers un sens ultérieur ou bien vers un infini du sens qui est un peu ce qui, dans la culture occidentale, jusqu'à un certain point, a été conçu comme invention poétique. Le style figuré dont a parlé saint Évremond mérite donc un peu d'être sollicité, au-delà de l'acception rhétorique. Figure peut aussi signifier préfiguration, rapport de correspondance et de résonance entre texte et culture, capacité du fantasme poétique à refléter l'univers spirituel, dialectique de présence et d'absence, trace d'un mystère, ce mot qui apparaît dans le dernier livre du Télémaque pour la première fois, un mystère qui fait chanter la prose, même dans le silence du vers. Maintenant, je voudrais renverser mon approche par une remarque contraire et symétrique. La présence des dieux dans le Télémaque suscite un grand nombre d'interrogatifs. Je cite Pierre Maréchaux. La splendeur et la simplicité du poème homérique, où les dieux sont innocents même lorsqu'ils affrontent à la tête des destinées humaines, sont filtrés par Fénelon à travers la théologie de Virgile, qui fixe une lecture tropologique, donc moralisatrice de la fable, qui attribue un sens moral au conflit et laisse émerger par moments des angoissants interrogatifs métaphysiques. par exemple sur la colère des dieux. Plus près de Fénelon, la tradition mythographique des manuels jésuites enseignait à transformer les divinités, une fois trop bien anthropologisées, Vénus, la luxure, Hercule, les funestes effets de l'amour, etc., en peinture morale, à les évoquer à travers des descriptions verbales, des ekphrases, et à les investir de la fonction ambiguë qu'exerce l'image dans un parcours psychagogique. De passage en passage, le panthéon de la fable a connu chez Fénelon des subtils mais radicaux changements. Son canevas est redessiné sur fond d'un monothéisme vague au point d'annoncer, comme on l'a dit, la religion des Lumières. La dimension esthétique auréole les images du divin, un peu comme cette robe fluide, ce voile qui, chez Fénelon, rend les corps légers et les prédispose à l'ascension, Minerve, à la disparition, Eucharis. Alors, si l'on peut insister sur la tropologisation des divinités païennes dans la ligne virgilienne préférée par Fénelon, d'autres exploitent des catégories différentes pour interpréter le bon usage de la fable. Peut-être que les dieux, ces fictions générées par une civilisation spécifique dans l'histoire, sont l'annonce de quelque chose qui est encore à venir. Ils s'inscrivent comme des étapes d'un dévoilement progressif dans la continuité de l'histoire universelle. Si cela était, nous pourrions reconnaître dans le Jupiter de Fénelon, puissant et bienveillant, les traits d'une paternité divine et royale qui ne sont pas sans évoquer le père de la révélation chrétienne. Et tandis que Minerve, déesse de la sagesse, anticipe une théologie du verbe, la christologie mystérieusement lacunaire de Fénelon se répand doucement en une vaste typologie d'enfants, de serviteurs, figures sacrificielles et salvatrices, sur lesquelles la tradition mystique pourrait nous instruire, non moins que la psychanalyse ou l'anthropologie, que fascine le thème obsédant chez Fénelon de la mise à mort du Fils. Donc, d'un côté, le mythe serait un peu platement une peinture morale. De l'autre, une préfiguration des vérités chrétiennes. Ces définitions trop sommaires devraient être affinées. Pour Fénelon, comme presque pour tous ses contemporains, on le sait, il n'existe pas d'allégorisation du mythe homérique comme énonciation figurée d'une vérité secrète pour les initiés. C'est pour cette raison que l'usage moral de la fable est, dans le Télémaque, bien explicité et que les mythes, les images et les fictions sont accompagnés de maximes et de sentences. Puisque le mythe est peinture morale, son ekphrase met sous les yeux tout ce que la raison et le cœur doivent comprendre et conserver. Mais d'autre part, le mode de fonctionnement énigmatique et chiffré est surtout la modalité allusive, au contour indécis et à la retenue profonde, sont dans le Télémaque plus continus et essentiels que ne l'est l'usage tropologique de la fable. La typologie elle-même, le système de préfiguration, en est affecté. C'est dans le mode allusif que se déploie, mais également s'atténue, ce système de préfiguration évoqué parfois sous le nom de typologie. Les allégories sont chez Fénelon fugitives, insaisissables, comme la mystérieuse amphitrite, si rapide dans son passage, que le lecteur de Fénelon s'interroge encore sur le sens de son apparition. En somme, dans ce clair poème, les dieux aussi ont leur part d'énigmes. Les considérer comme des peintures morales ou les contempler comme autant de préfigurations des mystères chrétiens ne suffira pas pour pouvoir dire d'avoir vraiment pénétré leurs secrets. Il y a des réflexions capitales de Jacques Lebrun sur les raisons du recours au mythe dans l'œuvre de Fénelon. Je le cite. « L'Antiquité profane n'était pas reconnue comme entièrement profane ». le recours aux païens, à Platon et à Cicéron sera pour Fénelon, quelques années après la rédaction du Télémaque, un argument en faveur du pur amour, ce tabou que la théologie du temps avait tant de difficultés à concevoir. On peut ainsi penser, je cite encore Lebrun, que le recours à la mythologie et aux légendes antiques était pour Fénelon un moyen de rendre pensable et exprimable d'ultimes questions. Ce qui vaudra pour le pur amour vaut peut-être déjà dans le Télémaque pour les inexprimables secrets que recèle cette œuvre, les questions fondamentales de la paternité, du désir, de la mort, de la place du père et de celle du fils dans le monde, de la relation pédagogique. Fin de la citation. Sur les profondes et bouleversantes vérités de l'homme plane, d'autre part, le sourire de la sagesse, le sourire de Mentor, la sérénité d'Amphitrite. Fénelon n'avait pas besoin de déchirer le voile de la fable, il la reconduisait, sans en forcer les contradictions, vers un point de fuite d'où elle peut recevoir comme un supplément de signification et acquérir ainsi le pouvoir d'exprimer le trouble, la mélancolie, mais aussi les enjeux d'une spiritualité moderne. Alors, ça, ce sont des prémices plutôt générales. Je voudrais maintenant passer à analyser les épisodes du texte de Télémaque où Vénus apparaît. Alors, je dis tout de suite que cette réflexion est née d'une sorte de malaise, de surprise que j'ai toujours éprouvée face à une certaine ambivalence que le texte de Fénelon me semble présenter sans l'assumer réellement à l'égard de cette terrible Vénus. Il faut rappeler une donnée structurelle par rapport à la quête de Télémaque qui trouve en Mentor Minerve une figure d'adjuvant. Vénus remplit la fonction d'opposant, alliée avec Neptune dans sa lutte contre le voyage de Télémaque, elle est une sorte d'antiprovidence qui provoque et relance les événements. Donc le panthéon du Télémaque est lui aussi un royaume divisé dans lequel un maître spirituel comme Fénelon peut projeter les conflits de l'âme humaine. J'ai mentionné les suggestions monothéistes et parfois même trinitaires qu'émane la fable fénelonienne, Jupiter, Père très haut, qui voit au plus profond des cœurs, Minerve, parole dispensatrice de grâce, etc. Mais il faut insister aussi sur la résistance du résidu mythologique classique qui révèle sa substantielle indisponibilité à préfigurer l'univers chrétien. Nous sommes face à un paradoxe un peu inquiétant. Dans cette mythologie, inapte à raconter l'origine du mal, tout comme à sonder le mystère de la souffrance, on attribue à certains actants divins, Vénus, Cupidon, des qualités de malignité et de cruauté qui ne leur appartenaient pas dans la fable originelle. Est-ce que nous voyons résurgir ici l'antique tendance de la première pensée chrétienne à considérer comme des démons les dieux d'un Olympe effondré? La lecture typologique connaîtrait alors un déphasage substantiel, plus impressionnant si l'on considère la profondeur dans la spiritualité platonisante de Fénelon de la nostalgie de l'un, du simple, trait essentiel du divin, vrai nom de l'infini. Et d'autre part, si l'on se souvient que dans les allusions à la Trinité, rendues reconnaissables par une lecture typologique du panthéon de Fénelon, la case que le maître de l'amour pur n'a pas remplie est précisément celle de l'amour, le Saint-Esprit. Les apories de ce thème, les apparitions de Vénus dans le Télémaque, semblent attester non seulement les difficultés du bon usage de la fable, mais aussi une problématique tout interne à la morale et à la spiritualité de Fénelon. Dans le livre 4, au cœur du récit de Télémaque à Calypso, se place l'épisode de l'île de Chypre, inauguré par un rêve prémonitoire. Télémaque, en voyage vers Chypre, s'endort. Pour décrire son sommeil, l'auteur utilise de façon ambiguë un lexique de la psychologie spirituelle qui parle de liens et de suspension des sens. Quelqu'un a dit que c'est le même lexique que Fénelon utilise dans son sermon sur Sainte Thérèse d'Avila. Ah, je ne suis pas tout à fait sûre, mais quand même, les termes se ressemblent. Qui plus est, un lexique paulinien qui mentionne la joie et la paix, signe de l'Esprit Saint dans la lettre aux Galates, comme sans doute pour souligner une possibilité d'erreur qui se glisse au plus profond des signes même du discernement spirituel. Précédé par de tels signes, voilà que lui apparaît en rêve la déesse. Tout à coup, je crus voir Vénus qui fendait les nues dans son char volant, conduit par deux colombes. Image topique. Faut-il s'interroger sur la valorisation symbolique des colombes, les bestiaires sacrés et profanes, la fable et la tradition mystique? François de Sales peuvent lui attribuer la tendresse la plus sensible, parfois sensuelle, ou le pouvoir le plus spirituel d'ouvrir les cieux. S'ensuit le portrait de la déesse. Elle avait cette éclatante beauté, cette vive jeunesse, ces grâces tendres qui parurent en elle quand elle sortit de l'écume de l'eau et qu'elle éblouit les yeux de Jupiter même. C'est bien la Vénus Anadyomène, dont la nudité est pudiquement couverte par Télémaque à l'aide des lieux communs de l'éloge, évoquée à travers une périphrase et associée à la stupeur, à l'éblouissement, qui fait de chaque apparition de Vénus une scène de première rencontre. Là, nous verrons, chaque fois que Vénus apparaît, c'est la même chose. Le geste qu'elle fait, toucher Télémaque, l'acte de l'appeler par son nom, les paroles d'annonce, de promesse, d'avertissement, sont de nature à établir une relation intime. Comment réagira Télémaque? Nous ne le savons pas, parce que tout à coup d'autres acteurs entrent en scène. L'enfant Cupidon, aux yeux déplaisants, la déesse Minerve, dont le geste de protection, elle couvre Télémaque, son égide, est symétrique et antithétique à la touche familière de Vénus. Minerve, dont la beauté est présentée comme opposée à celle de l'autre déesse. C'était une beauté simple, négligée, modeste. Tout était grave, vigoureux, noble, plein de force, de majesté. On peut noter l'alternance des adjectifs au féminin et au masculin. Pour finir, Mentor. Un mentor onirique, une ombre qui échappe à l'étreinte de Télémaque et qui révèle en deux mots terribles la vérité de Chypre, cette cruelle terre, cette terre empestée où l'on court des dangers mortels. La lutte est engagée entre Vénus et Minerve, et c'est un leitmotiv sur lequel il faudra revenir. Mais pour l'instant, le texte de Fénelon propose, entre le début et la fin du livre 4, une autre évidente opposition. Je rappelle que l'épisode qui se passe sur l'île de Chypre, cette fausse île fortunée, où l'on peut entrevoir une funeste citère baudelairienne, nous montre Télémaque qui lutte contre la rivière profonde et rapide. Vénus lui avait promis un fleuve de délices. Il se débat en vain, désespérément, contre la force du courant. Une fois libre et mis hors de danger grâce au retour de Mentor, Télémaque reprendra son voyage au bord du navire de Azaël, Azaël qui a brûlé son encens sur l'autel de Vénus, mais qui s'est distingué entre la puissance de la déesse et l'infâme mollesse des habitants de ce Nil. L'épisode pourrait se conclure ainsi, avec ce jugement, ces distinctions sages. Mais en fait, cette morale un peu courte passe presque inaperçue, totalement provisoire par rapport au final grandiose du livre 4, où Télémaque, qui a expérimenté sur l'île l'impossibilité de résister à la séduction d'objets qui en réalité le dégoûtent, connaît un moment de grâce en écoutant la conversation de Azaël et Mentor et en voyant surgir de la mer, à l'instar de Vénus dans son songe, le chat d'Amphitrite. Fénelon aime les parallélismes et les antithèses. Après l'opposition entre Vénus et Minerve, voici celle entre Vénus et Amphitrite. Dans une antithèse de position, dans le livre, au début et à la fin, qui est basée aussi sur quelques analogies, la féminité, la beauté, le fait de jaillir de la mer, l'émerveillement de la nature, le char léger, la présence d'un enfant. Amphitrite offre de la sérénité au lieu de la joie. Elle attire et apaise les forces obscures de la nature, les vents et les monstres. Télémaque a fait naufrage avant d'arriver à Chypre. Donc Télémaque est récompensé au-delà de ses attentes dans un moment de contemplation des voluptés auxquelles il a renoncé. On peut se demander, au passage, si Amphitrite, sagesse nourricière, image vaguement mariale, ne revêt pas aussi de surdétermination biblique et chrétienne le mythe platonicien de la Vénus céleste. Certains détails de la représentation s'inscrivent dans une tradition qui remonte à la célèbre Vénus de Botticelli et, par le biais de celle-ci, au poème du Policien « Stanze per la giostra », dont certaines strophes décrivent la naissance de la Vénus pudica et fixent le programme iconographique de Botticelli. Dans ce beau texte poétique de la Renaissance florentine que Fénelon vraisemblablement n'a jamais lu, même si le texte a circulé en traduction latine dans toute l'Europe de l'époque, ce texte qui présente des affinités extraordinaires textuelles avec certains passages de Télémaque, nous trouvons une spiritualisation discrète de l'amour qui mêle des réminiscences du dolce style novo à l'inspiration néoplatonicienne. Et la description du royaume de Vénus s'organise selon une hiérarchie ascendante où la déesse elle-même, douce et sereine, occupe le rang le plus élevé. Mais passons au début du livre 8, c'est-à-dire à la scène où Vénus monte jusqu'à l'Olympe, pour se plaindre de sa déconvenue dans l'épisode de l'île de Gigi, puisque Télémaque finalement s'est échappé. Nous sommes, me semble-t-il, face à l'une des pages où se révèle le mieux, l'une des fonctions les plus profondes, parmi celles que la marqueterie intertextuelle et la mémoire mythologique remplissent dans le Télémaque. Permettre la contradiction, l'oscillation, la faille, trahir le point critique d'un système, recodifié en fragments et en fiction, intrinsèquement allogique, une totalité théologique par certains aspects impossibles. Cette Vénus qui monte sur la voûte du ciel n'est pour un moment ni pure ni impure. Elle est belle. Tous les dieux furent surpris de sa beauté comme s'ils ne l'eussent jamais vue, et leurs yeux en furent éblouis. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement et leurs yeux revenaient toujours sur Vénus. Le lecteur ne sait rien d'elle, si ce n'est qu'elle porte une robe fluctuante, irisée, une ceinture, les cheveux négligemment noués, selon le blason de la beauté féminine chez Fénelon. Jupiter, le père des dieux, écoute ses plaintes, lui sourit, la traite avec tendresse et complaisance, l'appelle « ma chère fille », la caresse au point de la faire rougir modestement, tandis qu'elle se dissimule sous son voile. Avec un geste exquis que l'hypotexte de Virgile, dans le livre premier de l'Énéide, n'a pas inspiré. Où sont la mollesse, la langueur passionnée qui caractérisent défavorablement chez Fénelon la beauté de Vénus? On a l'impression de rêver, ou plutôt c'est le texte qui rêve, si l'on pense que nous sommes confrontés à l'ennemi de Télémaque, à la rivale de Minerve, à la maligne alliée de Neptune dans la persécution du fils d'Ulysse. La profonde et dépaysante ambivalence de cette page me semble s'expliciter dans deux réminiscences littéraires que Fénelon avait probablement toutes deux présentes à l'esprit, outre celle plus évidente qui renvoie à Homère et Virgile. La permission que Jupiter donne à Vénus de mettre à l'épreuve Télémaque, à condition de ne pas le perdre ni de la servir, ne rappelle-t-elle pas le livre de Job et les limites que Dieu impose à Satan quand il lui concède de tenter le juste? Gérard Ferreira l'avait déjà remarqué, cette source. Le geste prévenant de Jupiter qui se lève et qui rassure la suppliante ne rappelle-t-il pas la douceur d'Assuérus dans la tragédie de Racine face à Esther qui a osé se présenter à lui sans y avoir été invitée? Comment deux valorisations aussi différentes peuvent-elles cohabiter ensemble, si ce n'est dans la dimension onirique, allogique du texte qu'est pour Fénelon l'espace de l'allusion? Il ne faut pas tenter de justifier Vénus. Nous savons que, à peine descendue de l'Olympe, elle tramera avec Neptune contre Télémaque, manifestant ainsi sa cruauté. Nous savons également que la déesse de la passion amoureuse ne participera pas à la phase finale de l'éducation sentimentale de Télémaque, à ce chef-d'œuvre de la sagesse qu'est son amour pour Antiope. Encouragé par Mentor, soumis à la loi du père, je ne tenterai donc pas de mettre en question le statut négatif de Vénus dans le poème de Fénelon, quelles que soient les ambivalences de certains textes qui la concernent. Et pourtant, dans le syncrétisme de l'imaginaire, des rapprochements, des déplacements, des substitutions sont encore possibles. Vénus occultée, supprimée par cette histoire d'amour avec Antiope, prend sa revanche en la personne même d'Antiope, la jeune fille au nom d'Amazone, qui, aux yeux de Télémaque, est tour à tour Vénus, Diane, Minerve et toute déesse à qui on offre des sacrifices. Quand Idoménée lui ordonne de mener les danses des jeunes crétoises au son des flûtes, on la prendrait pour la riante Vénus qui est accompagnée de grâce. Plus encore, c'est la métamorphose de Mentor, dont le vieux visage se transforme sous les yeux de Télémaque en celui d'une jeune déesse. Il reconnaît un visage de femme avec un teint plus uni qu'une fleur tendre. La mémoire culturelle, sans cesse sollicitée par Télémaque, ne peut pas ne pas évoquer, outre Homère, l'épisode virgilien sous-jacent à cette scène de métamorphose et ne pas savoir que l'ambroisie et le teint de rose, ainsi que la majesté, sont ceux de la déesse Vénus qui, dans le livre premier de l'Énéide, se manifeste à Énée. Un épisode qu'il faudrait relire parce qu'il y a dans la disparition même de Vénus qui ne se laisse pas embrasser par Énée, il y a, et donc qui suscite une plainte de la part d'Énée, il y a des assonances avec certains caractères du texte de Fénelon qui peuvent frapper. Si on cherche plutôt des références intratextuelles, il faudra bien dire que la Minerve du livre 18 de Télémaque a au moins en commun avec la Vénus du livre 8 les clichés de la beauté. La robe flottante, les couleurs de l'arc-en-ciel et de l'aurore, la légèreté de l'oiseau qui fend l'air, le nuage d'or et d'azur. On connaît la faiblesse et la force des clichés dans l'écriture de Fénelon, au point que le contraste moral entre les deux déesses pourrait s'estomper sur le plan esthétique en une sorte de réconciliation. Minerve comme Vénus. La dérive onirique du texte ne nous autorise pas à autant. Il est toutefois possible de soutenir que, en plusieurs endroits du Télémaque, l'évidente malignité de la déesse tentatrice connaît de subtiles euphémisations. C'est, je crois, parce que la malignité et la cruauté sont objectivées en dehors d'elles-mêmes chez le petit Cupidon, que Vénus jette dans les bras de Calypso et des nymphes afin d'apporter feu et poison. Entre image et doctrine s'établit alors une correspondance clarificatrice. C'est la force du désir qui constitue l'ombre radicale, la pesanteur de l'amour. Cupidon personnifie la malignité de la déesse, c'est-à-dire la dimension érotique, désirante de l'amour, que Vénus, apparaissant à Télémaque, a couvert suavement du nom de douce espérance. Si au nom de la beauté, le texte du Télémaque fait rêver d'une réconciliation possible entre Minerve et Vénus, la sagesse et l'amour, la force du désir représente l'inacceptable, l'inconciliable, l'impureté avec laquelle le théoricien de l'amour pur ne peut pas consentir à un compromis. C'est ici que le message moral du Télémaque semble demander, à mon avis, le complément d'une pensée mystique. Dans l'opuscule qui fut publié posthume sur le pur amour, Fénelon développe les témoignages des païens en faveur de celle qui lui semble être l'unique et universelle doctrine de l'amour, accordant une place à un certain point à l'argument platonicien de l'identité du beau et du bien, et décrivant avec Platon le dynamisme de l'amour comme un mouvement extatique vers le beau infini. Il serait ambitieux de faire appel à la pensée de Fénelon sur l'amour ou à sa théorie de la beauté. Quelques-uns des meilleurs connaisseurs du Télémaque concluent, sur la base des fantasmes les plus séduisants du roman, un divorce consommé entre l'idée du bien et celle du beau, et à une sorte d'autonomie infiniment mélancolique de la sphère esthétique. Mais il y a autre chose à ajouter. Dans l'opuscule sur le pur amour se trouve une analyse intéressante et qui justifie, en un certain sens, ce que j'ai tenté de dire à propos de Vénus, de la Vénus du Télémaque. Pour préparer le cœur à accepter l'idée d'un amour si parfait qu'il semble impossible et chimérique, c'est-à-dire l'amour qui renonce virtuellement au bonheur éternel, l'amour sans aucun motif d'intérêt propre pour la béatitude. Fénelon nous invite à consulter ce que nous connaissons le mieux, l'amitié humaine et l'amour-passion. Ce qu'est l'amour pur, nous pouvons le découvrir en observant le miroir trouble de l'amour propre. Je cite, « Chacun veut, dans la société de ses amis, être aimé sans motif d'intérêt et uniquement pour lui-même. » Celui qui aime ne veut, dans le transport de sa passion, qu'être aimé pour lui seul, que l'être au-dessus de tout et uniquement, que l'être en sorte qu'on s'oublie et qu'on se compte pour rien afin d'être tout à lui. Telle est la jalousie forcenée et l'injustice extravagante des amours passionnés. Donc l'amour-passion qui a apporté le feu sur l'île d'Ogygie, la fureur de Calypso, les larmes de Vénus, la séparation déchirante de Charisse, cette vaste peinture morale où le cœur apprend de nouveau quelque chose de déjà trop bien connu, ne sont pas uniquement fonctionnelles à l'éducation sentimentale du jeune héros, qui, ayant traversé l'expérience de la passion, saura désormais apprécier de tranquilles amours aux côtés d'Antiope. Bizarrement, la peinture de la passion, plus que celle de l'amour raisonnable, intéresse secrètement le dessein d'une initiation, d'une éducation mystique. C'est la passion humaine, jusque dans son noyau brûlant, la jalousie, à offrir une analogie avec les exigences de l'amour pur. Je cite encore l'opuscule de Fénelon, Hélas, si l'homme indigne de tout amour ne peut souffrir d'être aimé par intérêt, comment osons-nous croire que Dieu n'aura pas la même délicatesse? La passion humaine présente donc l'image nécessaire de l'amour divin. Non pas tant parce que, à travers celle-ci, l'homme s'élève comme par degrés au pati divina, la passion des contemplatifs et des mystiques, mais parce qu'il n'existe pas d'autre moyen pour se faire une idée d'un Dieu passionné, délicat et véhément, un Dieu amoureux et qui suscite l'amour, captivant l'âme assoiffée d'un beau infini. Le miroir est renversé dans ce rapport de ressemblance que Fénelon institue entre la passion humaine et la passion de Dieu. L'amour pur, c'est-à-dire le seul qui aime vraiment, ne se construit pas sur une sublimation du désir, mais sur son retranchement. Ne nous attendons pas de la part de Fénelon à des invitations à désirer grandement, à l'exemple de Thérèse d'Avila, assurée d'atteindre sur les ailes du désir le bien et le beau infini. Si le besoin et sa satisfaction en droit de citer dans le monde de Fénelon, la problématique du désir, origine infaillible d'inquiétude, apparaît au contraire comme le nœud obscur et irrésolu de sa synthèse morale et spirituelle. L'amour, le véritable amour humain, repose sur la volonté et non sur le désir. De même pour Fénelon, le bonheur, la béatitude, est de façon indissoluble un acte de la volonté et de la pensée. Il est tout ensemble vision claire et charité consommée. Et quand il s'agit d'amour de Dieu, la nature peut certes offrir des figures, mais celles-ci devraient être redressées, renversées. Une discontinuité substantielle sépare la figure et la réalisation. Effectivement, c'est Fénelon lui-même, lui qui semble avoir souffert dans sa vie intérieure d'une torturante aridité, c'est lui qui exploite largement le lexique de la passion humaine quand il parle de Dieu. N'allons pas croire que le Dieu de Fénelon est le Dieu des philosophes, purifié des traces d'anthropomorphisme, ce bien sans visage dont les justes du livre 14 du Télémaque ne jouissent que sous forme de lumière. Non, dans les lettres et dans les opuscules spirituels, nous trouvons un lexique intensément affectif qui parfois, du côté de Dieu, prend même des couleurs inquiétantes. Voici la façon dont est décrit, par exemple, l'état de celui qui n'accepte pas de se donner totalement à l'amour qui le presse. On est comme un cerf qui est blessé et qui porte dans ses flancs le trait dont il est percé. Plus il s'agite au travers des forêts pour s'en délivrer, plus il l'enfonce dans son corps. Hélas, qui est celui qui a résisté à Dieu et qui a eu la paix? Dieu, qui est lui seul la paix véritable, peut-il laisser tranquille un cœur qui s'oppose à ses desseins? Dieu jaloux se refroidit. De quoi est-il donc si jaloux? Est-ce des talents, des lumières, de la régularité des vertus extérieures? Non, il est condescendant et facile sur toutes ces choses. L'amour n'est jaloux que sur l'amour. Qui aurait dit qu'une célèbre similitude du livre 4 du Télémaque, le livre de Chypre, qui exprimait là la blessure des sens éveillée par les séductions de l'île de Chypre, l'infâme mollesse des habitants, aurait encore servi à évoquer la blessure de l'amour divin. Je cite le livre 4. « Pendant ce trouble, je courais, errant, ça et là, dans le sacré bocage, semblable à une biche qu'un chasseur a blessée. Elle court au travers de vastes forêts pour soulager sa douleur. Mais la flèche qui l'a percée dans le flanc la suit partout. Elle porte partout avec elle le trait meurtrier. Ainsi je courais en vain pour m'oublier moi-même et rien n'adoucissait la plaie de mon cœur. » Je n'insisterai pas ici sur un langage lui aussi composé de clichés et de lieux communs dont la Bible elle-même ainsi que le chansonnier mystique offrait à Fénelon des exemples aussi abondants. Peut-être cependant, et là je vais conclure, nous trouvons dans ce texte une raison de plus pour justifier l'ample place accordée dans les aventures de Télémaque à l'initiation sensuelle et amoureuse du jeune personnage. Peut-être que, à la raison d'être morale de ces récits placés sous le signe de Vénus et de son fils, récits qui ont scandalisé des contemporains de Fénelon, Bossuet lui-même et des mères. Peut-être qu'à cette raison morale se mêle le fil d'une raison spirituelle infiniment moins évidente. Il était évidemment nécessaire de mettre en garde le pupille de Mentor et de Fénelon, le duc de Bourgogne, contre les fantasmes de Charis et de Vénus, et de hâter sa maturité psychologique à travers l'imaginaire, ce qui est l'une des grandes fonctions de la littérature. Mais d'autre part, ainsi que les Écritures l'enseignent, sans le langage de la passion humaine, serait-il jamais possible de parler d'un Dieu passionné, de la passion de Dieu ? L'initiation faite à travers l'imaginaire est donc aussi secrètement au service de l'homme intérieur. C'est peut-être là une raison de plus pour laquelle le prélat ne renonce pas à caresser, par l'intermédiaire de la main du Père des dieux, Jupiter, le visage de Vénus, et que les plus pures icônes féminines, Amphitrite, Antiope, Minerve, continue au moins un peu à lui ressembler. Et la fable, le mythe, peut établir avec l'autre fable, le récit de l'expérience de Dieu, un rapport qui n'est pas forcément d'opposition. Je vous remercie.